retombions en enfance le temps d'un podcast. Des histoires de crapauds, d'éléphants, de hyènes, de vers de terre, d'araignées rusées, de rois, de fous ou encore de marabouts.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans De vive voix. Recueillir, réaliser et transformer en micro-fiction radiophonique des contes issus du patrimoine ivoirien et que l'on retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, c'est le beau projet L'Afrique en conte, porté par l'ONG Des livres pour tous et par le collectif de créateurs sonores Making Waves, avec le soutien du programme Accès Culture de l'AFD, l'Agence française de développement et l'Institut français. Le résultat, une série podcast de 10 contes africain est disponible depuis le 14 juin sur les sites et applis RFI et sur les plateformes de diffusion.
La bouche qui prend la parole, doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent.
Savez-vous pourquoi le pic frappe son bec contre le tronc de l'arbre ? Pourquoi les hommes et les femmes ont perdu toute confiance en la fourmi ? Et que valent le succès et l'argent au fond du ventre d'une cigogne à sac ? Les réponses à ces questions pourraient certainement vous inspirer.
Mi conviso ya soa clamo, mi conviso si kafwe, songe milie milie, minye ja koyo koyo.
Tortue puissance,
ama ide,
puissance, tortue puissance,
ama ide. Félicitations, cher tortue. J'ai vraiment aimé la manière dont tu courais. Et tu ne t'es pas laissé faire. Hein. Et là, tu mettais un pas assuré après l'autre. Tu mettais un pas assuré après l'autre. Vraiment bravo. Mes félicitations. Et tu as eu une très belle part.
Aboué.
Oyé.
Aboué.
Oyé.
Ce projet, c'est l'Afrique en conte.
Récits d'ici et d'ailleurs.
Mais comme toujours, la réussite fait des jaloux.
Ah bon? Et qui sont les jaloux conteurs?
Eh bien, pour connaître les jaloux, il faut savoir pourquoi Koyo Koyo était en vie.
Laure Egorov et Tidiane Tiang, bonjour.
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 Vous êtes les co-réalisateurs de cette série de podcasts, L'Afrique en conte. Elvis Tano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes documentaliste et animateur à la Bibliothèque des livres pour tous à Abidjan. Laure Egorov, toucher les jeunes qui en Afrique ne lisent pas assez, c'était ça l'idée de départ de ce projet de Making Waves ?
Alors, je ne sais pas si c'était l'idée de départ du projet de Making Waves. En tout cas, je crois que c'est l'idée de départ de l'association des livres pour tous. De créer des lieux pour que les jeunes puissent se réunir et avoir accès à des livres, à des interlocuteurs. Et cette collection s'inscrit, disons, dans ce projet d'une manière assez naturelle, puisque l'idée, c'est sur une période de 3 ans, de recenser des contes ivoiriens, de les enregistrer et de leur donner une diffusion par un autre médium qui est celui de la radio ou du podcast. Et c'est dans cette idée-là que s'est inscrite cette première collection, en fait, de 10 contes. Donc, est-ce que c'est pour que les jeunes lisent plus? Je ne sais pas. En tout cas, pour que les histoires circulent.
Tidiane Tiang, l'écrit est plus difficile d'accès que l'audio en Afrique?
Oui, parce que c'est une culture orale. C'est une culture où on parle beaucoup, où tout se transmet par la parole. La parole occupe une place très importante. Et donc, ne pas perdre cette parole qui, souvent, a été perdue dans le passé parce qu'il n'y avait pas l'écrit. C'était aussi une idée de dire que ça peut continuer à vivre à travers l'audio, à travers les nouvelles technologies qui permettent de le conserver, ce qui n'était pas le cas avant.
Mais c'est parce que la tradition orale reste importante en Afrique que les contes ils sont encore très populaires?
Tout à fait, parce qu'en fait, la parole, elle est vivante. C'est-à-dire que l'histoire portée par un conteur évolue et change, en fait, selon qui le porte et comment il le porte. Il y a une rituelle qui accompagne le conte. Le conte, ce n'est pas seulement de la parole, une histoire qui est souvent quand c'est écrit, on le lit et puis voilà, on respecte l'écriture. Alors que là, il y a une liberté qui est donnée à chacun de l'animer, d'ajouter des proverbes, d'ajouter des chants, de le refaire vivre en fait. Et d'où l'idée de les enregistrer, de les diffuser pour que, dire aussi que la parole, elle est aussi importante que l'écrit et que voilà, c'est une forme de culture, de savoir-faire qu'il faut conserver.
Et les contes ne sont pas du tout réservés aux enfants ?
Pas du tout, parce que quand on fait les contes, il n'y a pas de tranche d'âge en fait. Il y a un rituel qui est respecté, souvent c'est le soir, c'est autour du feu. C'est une personne âgée qui raconte les histoires, étant donné qu'on pense qu'elle a plus d'expérience, qu'elle a plus vécu, qu'elle a plus vu. Mais ça n'empêche que les contes, souvent, ça conserve certains messages qui sont assez importants pour la société, comme préserver l'environnement, comme le rôle d'un chef de village, comme comment vivaient les communautés, parce que aussi c'est ça en lien, disons, ça consolide les liens entre les différentes ethnies, quels sont les pactes qui ont été scellés à quelle période, et tout ça s'est conservé à travers la parole et le conte.
Elvis Tano, comment avez-vous très concrètement collecté ces contes en Côte d'Ivoire ?
Pour la collecte donc de ces contes, nous étions donc obligés de nous approcher soit de nos usagers au sein des bibliothèques ou du moins de leurs parents. Également, comme nous sommes aussi en contact avec certaines écoles au niveau donc du district d'Abidjan et aussi certaines à l'intérieur du pays, lorsque nous menions des activités dans ces écoles-là, avant donc de mener l'activité, on envoyait donc une équipe pour donc aviser les directeurs donc de ces écoles-là que, avec le dispositif donc donné par Making Wave au niveau de donc la radio box, et donc nous passerions donc pour enregistrer donc les contes.
Donc c'est plutôt les enfants ou les parents des écoliers qui vous faisaient part de ces contes, qui vous les racontaient?
On prenait de toutes ces personnes, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents. On a un peu plus recueilli de contes auprès des parents parce que les enfants n'ont eux-mêmes pas entendu déjà ces contes. C'est quand on en a parlé donc avec ces enfants-là qu'ils sont allés auprès des parents et donc les parents se souvenaient que dans leur enfance, ils avaient donc entendu des contes.
Ça veut dire que la plupart des contes étaient des contes oraux qu'il a fallu retranscrire ?
Tout à fait, avec donc l'aide de Tidiane et Laurie Gross.
Et il a fallu aussi les traduire, ces contes ? J'imagine que beaucoup étaient en langue locale.
Surtout. Il fallait donc vraiment traduire certains contes, déjà en langue. Et aussi, on a eu la chance d'avoir donc certains déjà en français.
Et combien de contes avez-vous récolté au total ?
Là, approximativement, on est à plus d'une cinquantaine, mais pour donc les besoins des premiers recueils qui ont été qui devraient être diffusés. Donc là, c'est 10 qui sont présentés.
Alors, Laure, est-ce que la difficulté a été de traduire en français les images savoureuses, j'imagine, véhiculées par les langues africaines ?
Alors oui, enfin ça, c'est vrai que c'est un travail qui a été effectué par les bibliothécaires des Livres pour tous, qui nous ont fait parvenir des textes qui étaient traduits. Nous, ensuite, on les a un petit peu adaptés à nouveau, c'est-à-dire qu'on a essayé de leur donner parfois une forme un peu plus radiophonique, en imaginant des scénettes par endroits, en transformant certaines narrations en dialogue, des petites choses comme ça. Et le dernier aménagement, en fait, c'est les conteurs eux-mêmes qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés ce qui était la forme écrite des contes, et ils l'ont fait décoller, d'une certaine manière, vers l'oralité. C'est-à-dire qu'ils l'ont coloré de leur propre personnalité, de leurs propres expressions. Ils s'en sont emparés. Donc il y a eu comme ça différentes étapes successives.
Et comment avez-vous sélectionné ces 10 contes parmi la cinquantaine récoltée par Elvis Tano et ses collègues bibliothécaires ?
C'était un peu difficile, mais on s'est fait beaucoup de plaisir pour la sélection et pour le travail aussi, parce que c'était assez... On les lisait ensemble, c'est aussi une question de quand on fait des choix, c'est un peu difficile parce qu'ils étaient tous bien, très bien même. Donc il a fallu faire des choix, surtout en termes de temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps sur place. On devait être à Abidjan pour 2 semaines, je pense, c'était ça. Donc il fallait trouver les comédiens, faire des répétitions, faire les enregistrements. Ça prend énormément de temps. Donc on a dit qu'il fallait faire une première sélection et que par la suite il fallait y retourner pour faire une autre collection.
Est-ce que vous aviez en tête l'idée que ces contes devaient parler à tout le monde, au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique de l'Ouest même? De l'Afrique,
tout à fait, parce que quand on discutait, il y avait des contes qui faisaient peut-être des fois qu'on pouvait trouver dans les fables de La Fontaine. Et avec Laure, on en parlait, on en discutait, et ça, moi, je trouvais des contes aussi qui existaient au Sénégal, et que c'est peut-être souvent les animaux qui les portaient qui différaient, parce que selon la partie de l'Afrique où on est, avec quels sont les animaux qui sont les plus présents. Donc, les contes ont tourné autour de ces personnages-là. Mais sinon, dans l'ensemble, l'idée, c'était qu'on puisse présenter ces contes au reste du monde, que l'Afrique puisse dire aussi, voilà ma part de ce qui existe comme histoire et comment on les raconte, et que tout le monde peut raconter. On s'est fait énormément de plaisir à le faire.
Laure, est-ce que le conte qui s'appelle Le Roi Lion et sa fille est la version africaine de la fable que l'on connaît en France, Le Lièvre et la Tortue ?
Oui, tout à fait. C'est strictement la même histoire que Le Lièvre et la Tortue, puisque ici, comme chez Jean de La Fontaine, c'est la tortue qui remporte la course, parce que le lièvre a pris son temps, persuadé qu'il allait remporter la course. Il a pris tout son temps et finalement, c'est l'adversaire qui semblait le plus inoffensif qui l'a emporté.
Donc la tortue qui va épouser la fille du roi. Et le proverbe correspondant, on dit que celui qui n'a pas encore traversé la rive ne doit jamais se moquer de celui qui se noie.
Oui, comme quoi il ne faut jamais tenir la victoire pour acquise et sous-estimer son adversaire. Je crois que c'est la suite.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, tendu une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout flamme caramel. Avec tout comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Tout va bien dans De Vive Voix sur RFI, c'est un extrait de Moko, le nouvel album très dansant de Lokua Kanza. Nous parlons de la série de podcast L'Afrique en compte avec Laure Egorov et Tidiane Tiang, ses co-réalisateurs, et Elvis Tano, documentaliste et animateur à la Bibliothèque des Livres pour tous à Abidjan. Quels sont les thèmes, Elvis Tano, qui reviennent le plus souvent dans ces contes que vous avez récoltés en Côte d'Ivoire ?
En gros, le partage, la cohésion et également le fait de ne pas être un objet ou du moins une personne, un individu de discorde. Ça, c'est plus avec donc le conte Les trois filles de Nyamien Fli.
Tidiane Tiang, est-ce que ces contes ont tous une morale implicite ou explicite ou est-ce que certains sont énigmatiques ?
Je pense que dans l'ensemble des contes, il y a toujours une leçon qui est portée, que ça soit la solidarité, comme il l'a dit, le partage, il y a aussi la préservation de l'environnement. Il y a aussi des énigmes, parce que l'idée des contes aussi, c'est de travailler sur tout ce qui est mémorisation pour les enfants qui les écoutent et des comportements pour les adultes. Donc, on retrouve tout dans le conte. Le conte, c'est pas uniquement du... L'aspect divertissant est là, mais au-delà du divertissement, c'est aussi de l'éducation. Et donc, ils ont fait de l'éducation et le divertissement pour l'éducation, en fait.
On va écouter l'un des 10 contes que vous avez sélectionnés, Laure et Tidiane, Le roi et le fou.
Au cœur de la forêt, régnait un méchant roi appelé Ediala. Sourcils toujours froncés, Ediala n'ouvrait la bouche que pour insulter et ne levait le bras que pour frapper. Chaque matin, il prenait un malin plaisir à tourmenter ses sujets avec des questions qui faisaient bouillir d'angoisse leur cervelle. Il demandait aux uns d'avaler des flammes, aux autres de lécher un couteau tranchant, et Dieu seul sait quoi encore. Ses conseillers avaient beau faire, Ediala, têtu comme une mule, avait décidé une fois pour toutes de torturer tous ceux qui faisaient parler d'eux. Or, dans la région... vivait un homme réputé connaître beaucoup de choses. Les enfants, les femmes, les jeunes, les hommes, les vieillards, tout le monde ne parlait que de sa grande sagesse. Il n'en fallait pas plus pour que Ediala, le roi tyran, veuille le tracasser. Ainsi le fit-il venir auprès de lui. Le jour de la rencontre, la foule nombreuse s'assembla. Du plus petit au plus grand, du dignitaire à l'esclave, personne ne voulait se faire conter cette histoire. Chacun tenant à assister à ce qui allait se passer.
Il m'est revenu que tu te piques de tout connaître.
Seigneur, je n'ai jamais prétendu à la connaissance totale. Je ne connais que ce que je sais, et ce que je ne sais pas est un océan immense.
Tu ne sais donc rien. Pourtant, tu fais le malin au milieu de tes prétendus disciples. Eh bien, tu vas devoir faire un plongeon dans la petite goutte de ton savoir pour y trouver la réponse à cette question. Quand on laisse tomber un pilon dans un mortier vide, le bruit qui en résulte vient-il du mortier ou du pilon? Réfléchis bien. Réponds. Sinon, je te ferai pendre immédiatement.
On dit que le silence... est un ami qui ne trahit jamais. Le sage garda un moment le silence, puis il dit.
Le bruit vient des deux.
Mais dans quelle proportion d'intensité?
Le sage, ne sachant quoi répondre, resta muet. Et Diala reprit.
Dépêchons-nous donc, prétendu sage, dont la connaissance est située en deçà d'un mortier et d'un pilon.
Au même moment, un homme sale, bizarre, crasseux, avec des habits tout déchirés, fondit la foule et s'avança vers Ediala.
Ô roi, aucun homme n'ayant jamais été frappé de commotion cérébrale ne poserait pareille question. Et pour y répondre, il faut avoir l'esprit fêlé. Ainsi, c'est moi qui vais te donner satisfaction.
Et levant le bras... il asséna au roi une gifle si sonore que même les oiseaux qui se reposaient sur les branches des arbres s'envolèrent. Une gifle si sonore que chacun l'entendit dans tout le village. Puis, il éclata de rire.
Eh bien, ô roi, est-ce de ma main ou de ta joue qu'est sorti le bruit? Et dans quelle proportion?
Ediala, Ediala, Ediala.
Il faut souvent un fou pour instruire
Ediala,
un tyran.
Ediala, Ediala, Ediala.
C'était Le roi et le fou, extrait de Petit Baudiel et autres contes de la savane de Amadou Ampateba.
Laure Goroff, la distribution de ce conte, Le Roi et le Fou, est riche. Comment avez-vous fait le casting? Vous avez choisi plutôt des conteurs ou des comédiens?
À vrai dire, ils sont tous conteurs, je crois, parmi eux. Donc, on a choisi ces voix en lien avec nos alliés de l'association des Livres pour tous, qui nous ont présenté des gens qu'ils connaissaient. Et puis ensuite, disons qu'on a rayonné comme ça, et on a trouvé d'autres interprètes. Certains enseignaient dans l'école de théâtre. Et voilà, donc ça a été notre première semaine en fait à Abidjan. On a rencontré différentes personnes. Certains de ces conteurs et conteuses, on les a vus en scène en fait à ce moment-là. Et puis ensuite, je crois qu'on leur a demandé des essais. On leur a demandé qu'ils nous envoient un petit essai audio. Et c'est comme ça qu'on a choisi les 9 interprètes. Ceux qui donc portent la narration principale et puis ceux qui font toutes les autres voix des dialogues et des scénettes.
C'était important, Tidiane, que tous les interprètes soient ivoiriens à cause de l'accent?
Pas forcément en fait, parce qu'il y a Kwame qui est burkinabé. Voilà, donc ils sont pas tous ivoiriens. Et comme on l'a dit au début, l'idée c'est aussi que ça soit écouté partout. Que ça soit, c'est des contes issus du patrimoine ivoirien, certes, mais pour l'interpréter, et ça montre aussi que l'Afrique est quand même assez mixée en termes de dans toutes les grandes villes africaines, on trouve des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés, et comme ça, c'est une sorte de melting pot qui est sur place. Et c'était aussi intéressant de nous intéresser à toutes les personnes qui étaient sur place et qui pouvaient prendre en compte et l'interpréter de la manière la plus, disons, adéquate possible.
Alors, est-ce que chaque interprète a été enregistré seul, en studio, ou est-ce que vous avez organisé l'enregistrement comme si c'était une mini-pièce de théâtre, par exemple?
Ça dépend des contes, parce qu'en fait, on n'a pas toujours procédé de la même manière, mais je crois qu'en général, on enregistrait quand même la narration avec les voix qui venaient en fait s'insérer dans la narration. À d'autres moments, quand on ne pouvait pas le faire pour des questions d'emploi du temps des uns et des autres, on enregistrait toute la narration avec le narrateur ou la narratrice principale. Et puis ensuite, on enregistrait les dialogues. Et il y a un conte en particulier qui diffère de tous les autres. C'est 1000 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Parce que là, on a choisi de pas l'enregistrer en studio. Donc c'est le seul conte qu'on a enregistré en extérieur. Et on l'a enregistré dans le contexte pratiquement d'une veillée, c'est-à-dire que il y avait le Bindan Gazolo qui faisait le conteur et les autres qui interprétaient son auditoire, donc qui interagissaient avec lui. C'est le seul conte qu'on ait enregistré comme ça. Donc là, on s'est dit celui-là, on l'enregistre vraiment comme si on était dans la situation d'écouter un conte un soir au coin du feu.
Parce que la musique, le bruitage, l'ambiance sonore sont indispensables au conte. Quand on a le casque sur les oreilles et qu'on ferme les yeux, on doit pouvoir se sentir dans un village africain ou une rue africaine.
Ben, c'était aussi ça un peu le pari, parce que beaucoup pensent que le conte est assez désuet, qu'il fallait le renouveler. Et nous, l'idée aussi, c'était de proposer une forme d'écoute nouvelle. Parce que les habitudes d'écoute aussi ont vachement évolué sur le continent. On voit que tout ce qui est téléphonie, les gens, ils écoutent beaucoup avec leur téléphone portable. Donc, l'idée aussi, c'était d'arriver avec quelque chose qui disait que, ben oui, le conte a aussi cette possibilité de se renouveler, de parler à une génération beaucoup plus jeune, comme aux adultes, avec des formes nouvelles d'écoute. Donc, voilà, l'idée aussi, c'était aussi le pari. On a mis de la musique moderne aussi dans les contes. On ne sait pas limité à mettre du balafon, du kora, comme on a l'habitude de voir sur les contes africains. L'idée aussi, c'était de mettre des beats, de mettre du rap, de mettre d'autres sonorités qui parlent aux jeunes.
Elvis Tano, est-ce que vous avez écouté le résultat final et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui avez participé à cette récolte de contes à la première étape, je dirais, de ce projet?
Oui, nous étions vraiment émerveillés de voir le résultat donc de nos travaux et également de voir que à partir de ces comptes-là, l'ensemble donc de nos usagers ou du moins des personnes qu'on voudrait donc approcher pourraient déjà voir un peu vers quoi on tend avec la nouvelle donc génération de comptes dont parlait Tidiane tout à l'heure. Parce que comme il le disait, l'ensemble des comptes avant étaient donc présentés soit au niveau d'un feu de camp en soirée, ou du moins dans les villages. Et là, on voit qu'à partir maintenant des podcasts, on peut écouter un conte en pleine journée, un matin, prendre une leçon de morale avant de partir au boulot.
Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, la plupart de ces contes illustrent un proverbe. On peut citer « L'arbre tombe toujours du côté où il est incliné ». Ça, c'est le conte Boklokofilayen, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Ça, c'est « Verfoy, le ver de terre ». Et puis, le proverbe de la série aussi, qui ouvre chaque conte, « La bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent ». Tidiane, est-ce que ce sont les proverbes qui ont donné naissance aux contes ou l'inverse ?
Je dirais que ce sont les proverbes qui ont donné naissance aux contes parce que je pense que les personnes qui ont peut-être créé ces contes, ils se sont retrouvés dans des situations où il fallait s'adapter et trouver quelque chose qui pourrait, disons, parler aux protagonistes de cette situation bien donnée. Donc l'idée, quand on connaît bien la culture africaine et le rôle des proverbes, c'est ça porte toujours des messages, en fait, des messages qui vont au-delà de seulement la parole, mais c'est dans la pratique aussi. Et j'aime bien ce proverbe aussi de Malinké qui dit que la bouche a bénéficié de la parole, sinon c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui porte la parole et l'esprit doit parler à tout le monde et partir partout pour retrouver une sorte de morale qui aide les gens à être meilleurs ou à mieux se comporter en société.
Laure Egorov, comment sait-on qu'un podcast réussit ? Comment retient-on captive l'attention de celle ou celui qui l'écoute jusqu'à 11 minutes, puisque c'est ce que dure le conte le plus long, vous l'avez cité tout à l'heure, 1000 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire.
Comment on sait si les gens ne vont pas s'ennuyer ?
Bah, je crois que vous décrochez, vous pensez autre chose.
Alors moi, je crois que quand même sur des formats aussi courts, si les gens commencent à s'ennuyer, c'est vraiment qu'on a raté notre travail. Mais en général, en fait, c'est nous qui dans un premier temps essayons un tant soit peu de nous mettre à la place de l'auditeur et de faire des choses de manière suffisamment dynamique. Pour capter son attention, pour le l'émouvoir, le faire rire. Donc on évalue ça entre nous et puis ensuite on ne peut qu'espérer que la bouteille qu'on lance à la mer va trouver quelqu'un pour la recevoir.
Est-ce que vous voulez tester ces comptes sur un auditoire, sur des auditeurs cobayes, Tidiane?
Non, pas du tout. Je pense que c'est des œuvres, hein, c'est des œuvres artistiques et il faut les laisser vivre, les laisser porter par les populations qui vont les écouter. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Afrique, ils ont quand même des habitudes d'écoute qui sont un peu différentes en Europe, où les gens, ils aiment la radio et maintenant ils tendent vers les podcasts avec les téléphones portables, mais ils ont l'habitude d'écouter, ils aiment écouter. La parole, elle n'est pas, elle est là, elle est présente, elle est partout. Et je pense que on peut qu'espérer que ça soit réussi et qu'ils s'y retrouvent aussi. C'est surtout ça qui est important.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Vive Voix, Laure Egorov et Tidiane Tiang, membres du collectif Making Waves et co-réalisateurs de la série de podcasts soutenue par l'AFD L'Afrique en Compte, et Elvis Tano, documentaliste et animateur à la Bibliothèque des Livres pour Tous à Abidjan. L'Afrique en Compte, podcast disponible sur les sites et appli RFI et sur les plateformes de diffusion. Merci à Cécile Lavolo à la programmation et à Olivier Roux à la réalisation. À demain et portez-vous bien.